Bonjour Christian Remézy.
Bonjour.
La nutri-écologie, qu'est-ce que c'est ?
C'est simplement se nourrir avec des aliments naturels qui ont été produits dans de bonnes conditions écologiques. Mais si on veut une définition un peu plus large, c'est essayer de gérer en même temps, par l'alimentation, la santé de l'homme et la santé de la planète.
Vous parlez des dérives des nutritionnistes. Qu'est-ce que vous reprochez à la recherche ?
Je reproche à la recherche d'avoir eu une démarche trop réductrice, d'avoir oublié l'origine des aliments, la dimension à la fois de complexité de l'aliment et de complexité de l'alimentation en général.
Vous dites, voilà, les nutritionnistes, pour eux, ils attribuent les mêmes vertus à une tomate hybride qui est produite sous serre et une variété ancienne cultivée en plein champ. Et donc c'est ça l'erreur.
Oui, l'erreur, c'est de penser que la gestion de l'alimentation commence au supermarché alors qu'elle commence directement au niveau de l'agriculture.
C'est ça. Et puis, vous dites aussi, les nutritionnistes ont des arguments, par exemple, il faut des protéines pour les muscles, etc. Mais ces mesures-là n'ont pas été efficaces pour protéger la santé. Il y a, enfin, oui. On en parlera, il y a plein de maladies qui arrivent même si on mange plein de protéines, etc.
Oui. Par exemple, pour la prévention de l'obésité, un coup on a voulu diminuer les glucides, un coup on a voulu diminuer les matières grasses, mais on n'a pas dit arrêter d'aller au supermarché et d'acheter des produits ultra transformés. On a voulu donner des arguments qui se sont avérés totalement inefficaces.
Vous dites aussi que la recherche elle a servi à conforter le productivisme sans corriger ses défauts.
Les arguments nutritionnels ont beaucoup servi de marketing pour la promotion des produits transformés. Par exemple, le discours sur le calcium, ça a servi à développer la filière des produits laitiers, alors que c'était vraiment des discours construits de toutes pièces.
Vous venez de mentionner les produits ultra transformés. Alors, c'est le pire. Pourquoi ?
Premièrement, il n'y a plus aucun lien écologique. C'est-à-dire, puisque les aliments subissent un cracking, sont recomposés, aromatisés, colorés. Enfin, quand on mange un aliment naturel, on a à la fois des composés énergétiques et en même temps, on alimente notre microbiote. On ne peut pas, consommer des aliments artificialisés sans subir des problèmes métaboliques graves.
Expliquez-nous juste qu'est-ce que c'est le cracking ?
Le cracking, c'est le fait de prendre, par exemple, des céréales, d'en faire de l'amidon fractionné, ou bien de prendre des produits laitiers et de dissocier les composants du lait en caséine, en matière grasse, en peptides, en tout ce que vous voudrez. Le soja, on en fait de la lécithine soja, des protéines de soja, ainsi de suite. Donc, à partir de matières premières bon marché, on produit des ingrédients. Ces ingrédients vont servir à produire une multitude d'aliments recomposés.
Ultra transformés, donc, oui. Qui sont responsables de cette mauvaise alimentation, oui. Et de ces troubles métaboliques, oui. Diabète, obésité, maladies.
C'est ce qu'on appelle la malbouffe, mais d'une façon quand même, enfin, je veux dire, au niveau mondial, quand même, les chiffres sont hallucinants, puisqu'il y a plus de 500 millions de personnes qui sont en état d'obésité, et il y en a 2 milliards, largement, qui sont malnutris. Et donc, cette malnutrition se cumule à la fois les problèmes de surcharge pondérale et en même temps des problèmes de carence. On retrouve dans beaucoup de populations défavorisées, c'est à la fois le risque d'obésité et le risque de manquer d'un certain nombre de nutriments essentiels.
Oui, parce que en fait, les gens obèses manquent aussi parce qu'ils se nourrissent de façon trop peu complexe, c'est
absolument,
ça ?
Absolument, oui.
On a parlé du problème d'obésité, mais tout simplement, à notre époque, beaucoup de gens sont préoccupés par la prise de poids et vous leur adressez un message pour ne pas grossir. Il faut faire attention à son microbiote. Expliquez-nous.
Oui, finalement, tout ça vient de notre histoire, c'est-à-dire que quand nous étions chasseurs-cueilleurs, on avait surtout des aliments naturels qui n'étaient pas particulièrement riches en sucre, en amidon, en protéines. Et donc, ces aliments, il fallait, la digestion se poursuivait au niveau du gros intestin. Bon, ce qui veut dire que de toute façon, on a donc deux digestions, en particulier une digestion très importante par une flore intestinale. Cette flore intestinale, il se trouve qu'elle a besoin en permanence de suffisamment de crudités, de suffisamment de fibres alimentaires, de produits naturels. Cette flore, on l'acquiert dès la naissance et il faut l'entretenir par une grande diversité de produits naturels. Si on ne le fait pas, petit à petit, on a découvert qu'un microbiote qui n'est pas suffisamment sain, suffisamment équilibré, exerce des conséquences très négatives sur la santé. C'est-à-dire que ça va favoriser l'obésité, ça va favoriser un certain nombre de maladies. Donc la santé passe également par l'entretien d'un microbiote très équilibré, très performant.
Et vous parlez aussi du fait que si on ne mange pas des produits naturels et que le microbiote donc a l'habitude des produits ultra transformés, il y a une sensation de faim tout le temps.
Oui, c'est exact. C'est-à-dire que l'intérêt du microbiote, c'est que ça, c'est une digestion qui s'étale dans le temps. Ces produits naturels exercent un certain effet de satiété. Et si on consomme des produits qui ne contiennent que de l'énergie, cette énergie est vite absorbée et en même temps, le tube digestif ne donne pas des signaux qui les satisfait. Voilà.
D'où donc la prise de poids.
Oui, voilà.
Donc, il faut une remise en cause complète du système alimentaire dominant.
C'est compliqué, mais effectivement, je ne pense pas qu'on puisse concevoir l'avenir sans intégrer la nutrition à l'écologie, parce que l'impact de l'alimentation est considérable sur l'émission de gaz à effet de serre, sur l'effondrement de la biodiversité, sur la conservation des sols. Donc il faut réellement faire en sorte que nos régimes alimentaires et l'ensemble de la chaîne alimentaire permettent la préservation du vivant. On considère que l'ensemble des productions animales responsables d'environ 15% des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est considérable. Pourquoi ? Parce que finalement, l'essentiel des productions de céréales en particulier sont consommées par les produits animaux. Donc l'agriculture productiviste n'est pas faite directement pour nourrir le monde, elle est surtout faite pour nourrir un élevage très important. Quand on se pose la question si l'agriculture biologique peut nourrir le monde, il faut, la réponse est clairement positive, à une condition qu'on cesse de consommer autant de produits animaux.
Il y a quand même un message positif, bien se nourrir, ce n'est pas si compliqué.
Non, en soi c'est très simple, on se demande pourquoi écrire un bouquin pour dire que finalement c'est relativement simple de bien se nourrir. Donc, il n'y a pas de problème, on connaît les solutions, diversifier la consommation de produits végétaux, réduire la consommation de produits animaux, éliminer la grande majorité des produits ultra transformés. Bon, si on a compris le message, c'est très simple. Simplement, le système alimentaire dominant, il est tellement incrusté, installé, que pour le modifier, pour changer les habitudes à la fois des consommateurs. Par exemple, le pain, c'est une vraie catastrophe, le pain blanc, parce que, comme il n'a pas de goût, on est obligé de mettre beaucoup de sel pour lui donner du goût. En même temps, ce pain est fait avec des farines raffinées. Or, les minéraux sont contenus dans le sang qui est éliminé. Donc, on a un produit qui est très pauvre en potassium, mais très riche en sodium. Et ce qui fait qu'effectivement, un pain blanc salé n'est pas recommandable sur le plan de la santé.
On parle aussi beaucoup des protéines, comme quoi il faut des protéines, mais on oublie que les légumes aussi contiennent des protéines.
Alors, l'histoire des protéines, c'est vraiment du nutrionisme, c'est-à-dire qu'on a persuadé, la plupart des gens pensent qu'il est vraiment nécessaire de consommer beaucoup de produits animaux pour avoir un plein de protéines, alors que finalement, nos besoins en protéines sont très très faibles. Donc, c'est une représentation mentale qu'il faut dénoncer.
Mais les légumes contiennent des protéines.
Bien sûr. Évidemment, et dès qu'il y a une diversité suffisante de produits végétaux, on couvre la totalité de nos besoins en acides aminés essentiels.
Votre livre se termine avec une charte de la nutri-écologie. C'est le chemin vers une alimentation et une agriculture qui sauvera notre santé et celle de la planète. Quels sont les obstacles qui ralentissent la mise en place de ce qui est si urgent ?
D'abord, il faudrait qu'il y ait une espèce de prise de conscience de la nécessité de cette charte de la nutri-écologie. Jusqu'ici, on a cru pouvoir s'alimenter sans tenir compte des impacts de l'alimentation. Et il faut comprendre que manger un sens très profond, c'est un acte de solidarité à la fois avec la nature et à la fois avec le monde agricole qui produit ces aliments.
Mais qu'est-ce qui empêche que cela se fasse? C'est les lobbies de l'industrie agroalimentaire qui font obstacle?
Il est exact, les lobbies de l'industrie agroalimentaire sont très puissants. Par exemple, on peut toujours mettre sur le marché des aliments qui n'ont aucun intérêt nutritionnel, et malgré tout, c'est réglementaire. Voilà. C'est comme si on mettait à la disposition du public des voitures dont on n'aurait pas vérifié l'état des freins ou l'état de la sécurité. Donc, il n'y a aucune raison de continuer à délivrer des aliments qui n'ont aucun intérêt nutritionnel. Et pourtant, on le fait. C'est contraire à toute éthique. Un aliment, quand on le mange soi-même, qu'on le donne à ses enfants, il faut qu'il fasse du bien. Je ne comprends pas qu'on accepte de donner des aliments dont on sait qu'ils ne feront aucun bien à ceux qui les mangent.
Parce qu'ils contiennent, par exemple, les calories vides.
Hein, voilà, c'est ça.
Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer aussi ce que c'est?
Les calories vides, c'est tout ce qui apporte de l'énergie, mais isolé de l'aliment natif, de l'aliment initial. Et donc, consommer un fruit qui contient des sucres, mais ce fruit contient des antioxydants, des minéraux, des vitamines, des fibres, ça va très bien. Mais isoler les sucres, produire du sucre et mettre des colorants et en faire un soda, ça, c'est pas bon.
Voilà, ça fait juste grossir, ça sert à rien.
Oui.
Voilà, vous préconisez une solution radicale, hein, c'est d'isoler tous ces produits ultra transformés et de mettre dans un coin à part dans les supermarchés.
Absolument. Alors, je sais pas si je serai écouté. Ça, je pense pas que je serai écouté de suite. Mais vraiment, ça, c'est pas normal de laisser rentrer, j'allais dire, les consommateurs, les citoyens, dans un supermarché et de ne pas du tout les éclairer sur leur acte d'achat, de mettre à côté des aliments, mettons, des pâtes alimentaires qui sont tout à fait utiles, avec des produits ultra transformés qui sont inutiles.
Voilà, donc on a dit les lobbies de l'industrie agroalimentaire, de l'élevage, etc., donc font obstacle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver?
Justement, le but de mon bouquin, c'est de provoquer une prise de conscience citoyenne. D'abord, de faire rentrer ce mot nutri-écologie dans le langage courant. J'aimerais bien qu'il soit utilisé au Sénégal, enfin partout, ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire de dire, voilà, l'alimentation, c'est pas uniquement des nutriments, c'est le moyen de gérer à la fois l'agriculture, la santé humaine, la santé de l'environnement. Donc tout ceci, il faut que lorsqu'on pense à tous ces enjeux, on puisse se référer à la nutri-écologie. Voilà.
Voilà, c'est ça. Donc il faut une charte comme la charte des droits de l'homme.
Voilà, exactement. C'est un problème éthique. On a un ensemble de droits et de devoirs en matière d'alimentation. Il faut tout améliorer.
Voilà, il faut aussi, vous en parlez dans votre charte, préserver la souveraineté alimentaire pour que les paysans puissent localement, tranquillement travailler.
Un des principes de la nutri-écologie, c'est d'abord essayer de se nourrir avec l'environnement. Si on regarde l'histoire humaine, s'il y avait des gens, des habitants quelque part, c'est qu'ils réussissaient. Certes, il y a eu des échanges depuis toujours, mais quand même, la base de l'alimentation, c'était se nourrir avec le territoire environnant. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas relocaliser une partie des productions agricoles et de soutenir, bien entendu, une agroécologie paysanne partout dans le monde.
Voilà, et de protéger ces paysans, parce que parfois, ils sont menacés par l'agrobusiness qui veut les chasser.
Oui. Et puis par la guerre des prix. C'est-à-dire que je me souviens que je sais qu'au Sénégal, par exemple, le riz importé était moins cher que le riz produit sur place. Je sais pas, ça a peut-être changé. Mais voilà, donc du coup, ce commerce international peut souvent empêcher les petits agriculteurs de survivre.
Oui, oui, le commerce, comme vous dites, est parfois des réelles menaces. Hein. En Colombie, voilà. Par exemple, les paysans se font menacer, reçoivent des lettres de menaces de mort. Parce qu'ils sont là, ils veulent juste cultiver. Donc appel aux juristes, voilà.
Oui, voilà. Alors, y a juste un problème, c'est que cette charte de nutricologie, je l'ai rédigée tout seul. Mais une charte ne peut jamais être l'issue, le produit d'une réflexion personnelle. Donc, il faudrait que cette charte de nutricologie ait une dimension collective, autrement dit qu'elle soit travaillée et rediscutée par le maximum de personnes pour qu'elle devienne un peu un instrument commun pour gérer la chaîne alimentaire.
Donc on va essayer de passer le message.
Voilà.
Merci Christian Remezy. Vous êtes donc l'auteur de La Nutri-écologie, un livre que je recommande vivement à nos auditeurs, paru aux éditions Thierry Soucard.
Merci beaucoup.